Salut à tous, vous êtes dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique.
You must leave. If you do not disperse, you may be arrested and or subject to other police action. If you remain in this immediate vicinity, you will be in violation of the Pennsylvania Crimes Code. Police action may include actual physical removal, the use of riot control agents.
Ces captations sonores ont été prises lors d'une protestation contre le sommet du G20 à Pittsburgh, Pennsylvanie. Manifestation au cours de laquelle les forces de l'ordre locales avaient préféré l'usage d'armes dites non létales à l'affrontement direct avec les manifestants. L'arme dont il est question ici est le LRAD, Long Range Acoustic Device, et est de plus en plus utilisée par les armées et polices du monde entier afin de disperser les regroupements d'individus. L'interview que je vous propose aujourd'hui dans le Labomatique revient justement sur les usages policiers et militaires du son. Nous avions rencontré Juliette Vauclair, sociologue indépendante, pour aborder ses travaux sur les usages du son comme arme, titre de son unique ouvrage paru aux éditions La Découverte en 2011. La seconde partie de l'entretien ouvrira la question aux usages du son dans l'espace public urbain, en abordant la notion de marketing sonore. Nous tenterons de mettre en lumière l'existence d'un espace public sonore en se demandant dans quelle mesure celui-ci pourrait être constitué démocratiquement comme espace de délibération politique.
Je suis chercheuse indépendante, c'est-à-dire que j'appartiens à aucune université ni aucun laboratoire. J'explore en fait les sujets de recherche qui m'obsèdent pendant un certain temps en me disant que mes obsessions sont le fruit aussi d'un certain rapport à l'époque et qu'elles me dépassent largement moi-même et donc elles valent le coup d'être creusées rien que pour cette raison-là, quoi, pour ce qu'elles disent du moment qu'on vit. J'ai travaillé notamment sur la question du son que j'ai commencé à découvrir plus particulièrement quand je me suis mise à faire une émission dans une équipe de radio associative où je faisais de la radio, où je faisais mes premiers pas dans la radio. Je voyais émerger en fait différents sujets autour du son qui m'intéressaient, sur l'usage de certaines armes dans les manifestations aux États-Unis notamment. Du coup, j'ai décidé de creuser là-dessus, et tout en continuant à avoir une pratique radio. Donc.
Alors, vous êtes l'auteur de « Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son ». C'est paru en 2011 aux éditions La Découverte. Avant peut-être d'entrer dans le sujet de ce livre, d'où vous est venu cet intérêt pour l'usage du son comme une arme ? Donc c'est quand même quelque chose de très particulier, ça rénove un peu la question aussi de la guerre finalement, c'est aussi général que ça. D'où vous vient cet intérêt pour cette thématique de recherche et en quoi elle s'inscrit dans une espèce de continuité dans votre parcours ?
C'est parti d'un intérêt pour le son en général, comprendre comment le son fonctionne, d'autant plus que le son a toujours un caractère assez magique, on ne sait pas trop comment ça fonctionne et il faut vraiment s'y intéresser, l'étudier un peu pour voir que le son c'est une énergie mécanique et qu'elle agit de manière anticipable, quoi, explicable. Encore faut-il un petit peu creuser pour le comprendre. Et donc j'avais envie justement de casser un peu ce rapport magique au son pour saisir ce qui se passait dans le son. Et à l'époque, là où je commençais à faire de la radio, c'était 2007-2008, il y a eu notamment en fait à Pittsburgh un contre-sommet du G20, donc des grosses manifestations d'opposition au G20. Lors de cette manifestation, il y a eu le premier usage sur le sol des États-Unis, mais le premier usage, disons, massif d'un nouveau dispositif qui s'appelle toujours le LRAD, dispositif acoustique de longue portée, pour chasser les manifestants. Parallèlement à ça, j'entendais parler, il y a quelques articles de presse qui sortaient qui parlaient du mosquito, qui est un répulsif jeune, c'est-à-dire qui émet des sons très très aigus, que seules les oreilles les moins abîmées, les moins vieilles peuvent entendre. C'est-à-dire on ne s'adresse pas aux moins de 5 ans, mais aux moins de 25 ans, pour les faire partir d'une zone précise. Et puis on commençait aussi à avoir quelques échos d'usage de la musique comme moyen de torture. notamment en Afghanistan, en Afrique du Nord. Du coup, en fait, ce qui m'intriguait pas mal, c'était qu'aucune corrélation dans ces articles n'était généralement faite entre ces différents usages répressifs du son, que je ne savais pas, en fait, s'il y avait une longue histoire derrière ça, d'un tel usage du son, et en fait, bah voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de chercher par moi-même pour essayer de comprendre ce qui était en train de se jouer là, si c'était quelque chose qui était ancien, qu'on redécouvrait sans cesse l'eau chaude, comme c'est souvent le cas quand les médias se saisissent d'un marronnier, quoi, c'est-à-dire d'un sujet qu'on peut ressortir très très régulièrement. Comprendre non seulement l'histoire de ces usages-là du son, mais comprendre aussi et surtout les effets réels de ces armes acoustiques.
Alors, les usages militaires du son sont apparus progressivement aussi dans les films. Je pense notamment, par exemple, à Zero Dark Thirty, où il y a une séquence qui est assez formidable, où il y a l'usage du métal pour désorienter complètement et, j'ai quasiment envie de dire, désintégrer la subjectivité de la personne qui est soumise à cet usage militaire du son. Dans votre livre, vous retracez les différentes phases de l'expérimentation sonore à l'usage militaire. Comment ça s'est structuré, ce champ de recherche militaire? Parce que finalement, c'est ça aussi qui est intéressant dans votre recherche, c'est que vous cherchez dans un champ de recherche militaire. Quelles ont été les étapes fondamentales?
Il y a eu un usage de la musique ou du son sur les terrains de bataille depuis très très longtemps. Hein. Les tambours sont un instrument de guerre depuis un petit bout de temps. Et c'était un usage qui était à la fois pour motiver ses propres troupes et puis pour effrayer aussi l'ennemi par la puissance du son, en fait, signifiant une puissance militaire. Moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était ce qu'introduisait la technologie, quoi, là-dedans. Effectivement, autour de la Seconde Guerre mondiale, des deux côtés, à la fois les Allemands et les Japonais, et de l'autre côté les Alliés, il y a eu des recherches sur notamment le son diffusé depuis les airs, depuis l'espace aérien, qui introduisait une approche très très différente de la guerre, quoi, et de l'usage du son en guerre. Mais là, on restait dans le son utilisé vraiment comme arme de propagande, de manière... C'était l'amplification, en fait, de ce qui se faisait déjà auparavant, quoi. On avait le moyen de diffuser plus fort et de diffuser dans des endroits nouveaux, mais il n'y avait pas vraiment de nouveaux usages, quoi. Il y a eu un usage assez original qui était déjà pratiqué avant, c'est l'usage du son comme leurre. Faire croire, par exemple, qu'il y a une division de blindés qui est en train de débarquer à un endroit, alors qu'en fait, il n'y a que le son de la division de blindés qui débarque à cet endroit-là, pour désorienter, en fait, les troupes ennemies, qu'elles se réorganisent et leur faire perdre du temps, etc. Ça a pu être fait aussi auparavant, sans aucune technologie, mais disons, ça s'est développé, et c'est une tactique qui est toujours aujourd'hui utilisée par l'armée américaine, par exemple. En fait, le véritable tournant, c'est dans les années 50-60, au moment où la CIA lance le programme MK-ULTRA, un énorme programme de recherche qui avait été motivé en fait par un fantasme et qui s'est poursuivi sur des bases très réelles. Le fantasme, c'était que les États-Unis étaient persuadés que les communistes, la Chine et l'URSS, avaient trouvé le moyen de faire des lavages de cerveau aux prisonniers de guerre, parce qu'ils constataient qu'il y avait des procès où les prisonniers faisaient leur autocritique, s'annonçaient convertis complètement à la cause communiste. Ils ont voulu prendre de vitesse les communistes et trouver eux aussi les moyens, en fait, de faire du lavage de cerveau. Ils ont testé ça par deux grands moyens, les drogues, et c'est une expérience qui a été interrompue suite à certains scandales, parce que c'était sur des personnes non consentantes, généralement, qu'elles étaient testées. Donc ça a créé quand même un énorme scandale. Et puis, il y a eu toute une recherche, en fait, sur ce qui s'est nommé la privation sensorielle. Et la privation sensorielle, c'est le fait de priver quelqu'un de l'usage de ses sens, des cinq sens. Et c'est l'image qu'on a gardée, en fait, de, par exemple, des prisonniers de Guantanamo qui arrivent à Guantanamo habillés dans leur combinaison orange, avec un casque sur les oreilles qui les empêche d'entendre quoi que ce soit, des lunettes opacifiantes, des moufles pour les empêcher de toucher quoi que ce soit, de se repérer avec le toucher. Et après, au niveau de l'odorat, il y avait l'usage de, par exemple, de soit on enlève toute trace d'odeur possible, soit au contraire, on met une puanteur complète. Parce que la privation sensorielle, elle joue des deux côtés. On supprime, en fait, tout stimuli, ou bien au contraire, on assaille la personne de stimuli, ce qui revient au même, en réalité. Ça fait qu'il n'y a plus de repères dans l'environnement. Et donc, ce programme MK-ULTRA, en fait, c'est lui qui a mis en place ce qui s'est nommé ensuite la torture psychologique, la torture blanche, c'est-à-dire comment on réussit à faire adopter un autre comportement à une personne, comment on réussit à, sans la toucher, quoi, sans laisser de traces, comment on réussit à en réalité remodeler complètement sa personnalité de l'intérieur. C'était un petit peu ça l'objet de la recherche. Cette recherche-là d'MKUltra a ensuite continué en fait, et elle a donné aussi une autre branche qui est celle qui est les armes non létales aujourd'hui, les armes dites non létales, c'est-à-dire des armes qui n'ont pas pour objectif de tuer, ni même de blesser, mais qui ont pour objectif principal de neutraliser l'ennemi avant qu'il ne commette une action, ou bien l'ennemi ou la cible, ou bien de lui faire modifier son comportement à distance. Et ensuite l'évolution, c'est celle en fait que suit plutôt la recherche sur les armes dites non létales. Je mets toujours des guillemets à non létales parce que parfois elles sont mortelles, ces armes dites non létales. Et donc en gros, dans les années 60, ce champ de recherche là se structure, et dans les années 90, il y a la formalisation de la recherche sur les armes dites non létales avec des sous-programmes de recherche selon les types d'armes. Voilà, en gros, c'est ça les grandes évolutions.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre travail, c'est qu'il y a un lien évident qui est fait avec la question du corps, l'atteinte au corps et l'atteinte au psychisme. Donc ça fait partie des conséquences de l'usage du son d'une façon militaire. Est-ce que vous pourriez, à travers l'exemple du LRAD que vous avez déjà cité, nous expliquer un peu les conséquences que l'usage de son peut avoir sur le corps et sur le psychisme des individus ?
Alors, quand on parle des effets des armes acoustiques, il faut toujours prendre garde à deux écueils, celui de nier les effets, de les minimiser un petit peu trop, et celui au contraire de les exagérer. On est toujours entre ces deux écueils-là. Les fabricants ou bien les commanditaires, c'est-à-dire l'armée ou bien des labos de recherche liés à l'armée, naviguent un petit peu de manière schizophrène entre ces deux choses-là. On les minimise justement pour dire non, il y a une innocuité totale, il n'y aura pas d'effet sur le long terme. C'est un usage sûr dans une démocratie, socialement admissible, on va dire. L'autre versant, c'est de dire, c'est terriblement efficace, et vous allez voir, en deux secondes, vous allez retourner une foule. Qu'est-ce qui se passe avec le LRAD, par exemple, très concrètement? Le LRAD, c'est comme une énorme alarme de magasin. La fréquence, c'est-à-dire la fréquence, c'est la note, le son qu'elle produit, est particulièrement agressive pour l'oreille, parce qu'elle est pile dans la gamme de fréquences que notre oreille va naturellement amplifier, parce qu'elle correspond à la gamme de la voix humaine. Et en fait, notre oreille est faite pour filtrer les sons qui sont utiles à la communication orale. Naturellement, l'oreille, spontanément, va amplifier en fait, au départ, le son du LRAD pour ensuite comprendre qu'il faut mieux le filtrer. Donc c'est pour ça en fait, que le LRAD est aussi agressif et aussi insupportable à l'oreille. À son amplitude, à son volume maximal, il n'est plus fort qu'un avion au décollage, plusieurs fois plus fort. Et donc, on dépasse largement le seuil de douleur de l'oreille humaine et on va dans des niveaux qui peuvent créer des problèmes de surdité partielle ou permanente si jamais on est trop près de l'appareil et que c'est diffusé en plein dans les oreilles. Les effets psychiques sont plus difficiles à déterminer. C'est pas une arme qui est effrayante. Là, je l'ai décrite comme elle est, une grosse alarme de magasin. C'est plus en fait en termes de rapport à l'espace public en fait qu'elle pose problème ou qu'elle va agir. C'est-à-dire qu'on est face à une arme à laquelle il n'est pas possible de répondre. On est face à un mur et qui oblige en fait à une action. Et c'est comme si un ordre était donné à notre corps, s'adressant directement à notre corps et qu'on ne peut pas refuser en fait. C'est impossible à négocier, impossible à refuser. Et après, ce qui me semble plus crucial aussi en termes d'évolution, c'est cet aspect de, sur le corps de la personne, en fait, on va attaquer le corps des manifestants ou bien des gens sur un terrain de guerre. On va l'attaquer, mais de manière invisible. C'est-à-dire, on va garder complètement l'enveloppe corporelle absolument intacte. Mais derrière, par contre, on va agresser, en fait, à l'intérieur de la personne, ses sens, ou bien parfois son psychisme d'une autre manière, montrer que si on est devenu sourd, c'est à cause de l'usage du LRAD dans telle manifestation, à tel endroit, à tel jour où on se trouvait, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est plus à ce niveau-là, en fait, en termes de sentiment d'impuissance, en fait, face à ce qui nous est envoyé, quoi. Impuissance sur le court terme, parce qu'on est obligé de répondre à un ordre physique qui nous est envoyé, et impuissance sur le plus long terme parce que ce sera très difficile en fait de montrer la corrélation, quoi.
Vous
Vous auriez quelques exemples pour les auditeurs d'usages récents du LRAD, histoire que tout le monde situe bien la chose?
Le LRAD, il a été utilisé notamment pendant toutes les manifestations Occupy aux États-Unis, Occupy Wall Street notamment. Le LRAD servait à dégager des zones à certains moments. Après, il n'est pas utilisé uniquement aux États-Unis, et il est utilisé par les États-Unis sur les terrains de guerre. Par exemple, dans la dernière guerre d'Irak, il utilisait en fait comme arme pré-létale, c'est-à-dire, enfin, c'est des chercheurs qui ont donné ce nom-là, des chercheurs indépendants. C'est certainement pas l'armée qui a utilisé ce terme, parce qu'au contraire, elle aimerait pas ce terme. Mais pré-létale, pourquoi ? Parce que ça permet d'amplifier l'armement classique. C'est-à-dire, le LRAD était diffusé à plein volume dans les rues de Fallujah pour déloger les snipers irakiens. Et sinon, c'est pas utilisé. Enfin, les États-Unis ont exporté ce produit. C'est un produit qui est vendu en plus comme dispositif de communication de masse et pas comme arme non létale. Donc ça fait qu'on peut en vendre à la Chine. La Chine, depuis, a copié son propre modèle. C'est utilisé en fait dans pas mal de pays maintenant, sur un usage civil la plupart du temps, quoi. C'est-à-dire dans le cadre de manifestations.
On va peut-être prendre un peu de hauteur en faisant référence à des références théoriques. Vous parlez d'un exercice finalement renouvelé du pouvoir sur les personnes, sans atteinte à l'enveloppe corporelle. Ça fait beaucoup penser à ce que Michel Foucault a pu écrire, notamment sur la notion de biopouvoir. Est-ce que vous vous réclamez de l'œuvre de Michel Foucault en partie dans cet ouvrage, ou est-ce que c'est finalement ça s'est imposé à vous au fur et à mesure de vos lectures, de vos recherches? Comment se traduit dans votre ouvrage cette référence à Michel Foucault?
En fait, elle s'est traduite de manière assez spontanée. Je n'ai pas réfléchi à justement me dire « Ah, il faudrait que je termine avec Michel Foucault ». En fait, c'est la grille de lecture, si on peut appeler ça comme ça, qui est un bien vilain terme, disons la... une manière d'analyser en fait le monde qui nous entoure, qui effectivement pour moi c'était plus que spontanément, enfin Michel Foucault ou sa lecture a été très constitutif en fait de ma manière d'analyser les choses, ça c'est clair et net. Et la notion de biopouvoir effectivement et de biopolitique est particulièrement flagrante, je trouve, en ce qui concerne les armes dites non létales, parce qu'on est dans une gestion sanitaire en fait de la population. On s'adresse au corps social comme si c'était une foule animal à domestiquer, à tenir à distance, et ce qui du coup moi m'a poussé à creuser justement du côté de cette analyse foucaldienne quoi du pouvoir. C'est par exemple que les armes dites non létales, quasiment chaque type d'arme utilisée aujourd'hui dans le cadre du maintien de l'ordre, on peut en retracer la généalogie. Et au départ, il y a très régulièrement un dispositif antiparasitaire, un dispositif pour contenir du bétail. Donc en fait, le lien entre l'animalité et, disons, les animaux humains est très très clair, très flagrante dans l'évolution de ces recherches. Par exemple, le taser, qui est aujourd'hui une des grandes armes utilisées notamment par la police française. En fait, le taser, sa généalogie a été retracée par un chercheur indien, et qui lui a montré très clairement que ça venait au départ des barrières, des fils électriques anti-bétail en Argentine au début du XXe siècle. Enfin, pour les armes acoustiques, le répulsif antigène Mosquito, qui a d'ailleurs ce nom, Mosquito ça veut dire moustique en anglais, c'est un dispositif qui avec des sons encore plus aigus et utilisé comme répulsif contre les moustiques ou contre les rongeurs. En fait, pour toutes les armes, on trouve cette généalogie-là. Et donc, effectivement, quoi, l'analyse que fait Foucault de la biopolitique, ça me semblait parfaitement illustré en fait quand j'ai commencé à étudier tout ce champ de recherche-là. Quoi.
Oui, donc c'est aussi une méthode que vous empruntez à Foucault, puisque la généalogie, c'est un peu la pierre angulaire de son travail. Très bien. S'intéresser au corps et au psychisme et à la façon dont ils sont impactés par l'usage du son, c'est aussi peut-être s'intéresser à la question de la norme. On pourrait dire aujourd'hui une norme biopsychosociale, pour reprendre des termes un peu pompeux, mais est-ce qu'il y a aussi une volonté de s'interroger sur la question de la norme culturelle peut-être dans cet ouvrage ?
Sur cet ouvrage-là, j'ai plus étudié les aspects policiers et militaires. Bon, les aspects militaires restent, disons, pour le commun des mortels, relativement exceptionnels, on va dire. Les aspects policiers le sont déjà moins. Après, ma recherche a plus évolué récemment sur le marketing sonore, ou ce qu'on pourrait commencer à nommer un urbanisme sonore. Je dirais en fait que le travail sur la norme, il est plus dans cet aspect-là de mon travail que dans l'aspect précédent. Ou si, naturellement, hein, l'évolution du maintien de l'ordre, elle exprime aussi l'évolution des normes, de ce que va accepter l'État en termes de dissidence, de confrontation, de là où il va commencer le maintien de l'ordre, là où il va s'arrêter. Après, avec un dispositif comme le Mosquito, par exemple, qui est donc ce répulsif jeune que n'importe qui peut acheter sur Internet, là, on rentre dans un usage beaucoup plus ambivalent, puisque un commerce peut le mettre en place, un particulier peut le mettre en place. C'est plus sur notre rapport, en fait, à l'espace de la ville, l'espace commun de la ville, qui est chamboulé en fait par l'introduction de ces dispositifs, ou bien plutôt que ces dispositifs vont révéler. C'est-à-dire, à certains moments de la journée, on va accepter certaines personnes à tel endroit, et grâce à ces dispositifs acoustiques, à d'autres moments de la journée, on va les refuser. Par exemple, on va diffuser un son répulsif du Mosquito à partir de 20h sur des jeux pour enfants. Il y a des jeux pour enfants qui sont construits aujourd'hui avec des Mosquitos intégrés à l'intérieur. C'est un usage extrêmement contrôlé de la ville, de tout l'espace public en ville, c'est très clair. La géographie des espaces publics, on lui superpose en fait une géographie acoustique qui est très différente et qui va filtrer les gens. C'est-à-dire, on va mettre des sons attractifs pour tel type de personne à tel endroit, des sons répulsifs pour tel autre type de personne à tel autre endroit. Ce qui fait qu'en fait, l'espace public n'est finalement pas ouvert à tous et qui va être orienté, informé par ces dispositifs-là, quoi.
C'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant à la fin de votre ouvrage, c'est cette ouverture qui est faite sur l'usage du son, mais dans la société civile, et notamment les usages comme ça quotidiens. Vous parlez du dispositif Mosquito, par exemple, c'est assez frappant. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres exemples pour illustrer un peu votre propos? Je pense par exemple notamment à la SNCF, qui avait été un peu au cœur d'une controverse dans l'usage du son à l'intérieur des gares.
Oui, la SNCF, à plusieurs reprises, a tenté d'utiliser la musique classique ou bien d'autres types de musique, surtout la musique classique, en fait, pour faire fuir soit les jeunes, soit les sans-abri. Et ce qui est assez drôle, c'est que la SNCF, je les ai interviewés dans le cadre de la recherche sur l'urbanisme sonore, ils ont nié complètement avoir que ce soit à faire avec des expérimentations sur la musique. Donc le discours officiel, c'est que non, on ne va pas utiliser de répulsif au moyen de la musique. Mais en fait, certaines gares font leurs propres petites expérimentations dans leur coin. Après, pour moi, c'est surtout des discours performatifs, quoi. Brahms fait fuir les jeunes, alors que bon, est-ce que Brahms fait fuir les jeunes? Je ne pense pas. Ce qu'on va signifier en fait à une certaine catégorie de la population, c'est qu'elle est indésirable à un endroit donné. Parce qu'on va marquer, on va donner une signature acoustique à un endroit qui va dire quel type de public on va attendre dans cet endroit. Ou bien quel usage de l'endroit. Parce que les jeunes, bien sûr, on accepte qu'ils prennent le train, qu'ils payent leur billet et tout. Mais par contre, on ne veut pas qu'ils stagnent dans la gare pour discuter. On veut que ce soit un espace de flux et pas un espace de rencontre, de discussion. Surtout pas un espace d'expression politique. Disons que la musique n'a pas d'effet magique, quoi. Elle va pas réussir à faire fuir telle personne et attirer magiquement telle autre. Mais elle signe l'espace, quoi. Et parfois, c'est suffisant, effectivement.
Effectivement, oui, de ces usages donc du son peuvent transparaître des volontés de contrôle social. On pourrait peut-être, si ce n'est vous objecter, mais au moins préciser qu'il y a aussi des usages du son qui ont vocation plus à l'émancipation individuelle et collective. On peut notamment penser aux personnes en situation de handicap. Alors les personnes malvoyantes pour qui des dispositifs ont été pensés, des dispositifs, donc des usages du son, mais là dans une logique de justice sociale. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il y aurait des tensions entre différentes logiques d'usage du son dans l'espace public urbain?
Non, je le vois davantage comme une pensée commune en fait, au niveau institutionnel sur le sonore, c'est-à-dire comment utiliser le son pour orienter les flux et orienter les comportements. Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes institutions ou les mêmes structures qui vont faire les deux usages. L'usage incitatif et l'usage répressif sont pratiqués par la même structure sur un même lieu, quoi. À travers le sonore, moi, ce que j'ai vu, c'est plus la dissémination de la pensée comportementaliste dans la manière d'appréhender à la fois l'espace public et les gens qui transitent dans cet espace public, qui transitent, qu'on veut faire transiter justement l'espace public, n'étant plus perçu comme un lieu de réunion, sauf autorisé, encadré dans le cadre d'une... Et effectivement, les dispositifs qui sont mis en place pour les aveugles ou les malvoyants, également pour les sourds ou les malentendants. Pour moi, ces dispositifs-là sont... Un chercheur me disait, on est toujours considéré, personnes qui sont handicapées, sont toujours considérés comme une niche de la consommation finale pour les technologies. Mais en réalité, je pense que c'est plutôt l'inverse en fait. Pour moi, c'est plutôt une forme d'avant-garde, une forme de population test, pour laquelle on va développer en fait des dispositifs spécifiques qui sont très technologiques. Les usages technologiques pour orienter les flux, pour aménager l'espace public, sont testés en fait d'abord pour des personnes en situation de handicap et ensuite vont être élargies au grand public. C'est plus en ces termes-là que je les pense. Pour moi, ce n'est pas forcément par rapport à l'opposition que vous faisiez entre des usages répressifs du son et ça qui serait un usage acceptable. Pour moi, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est un continuum, disons. C'est un continuum. Le développement d'une signalétique sonore est très intéressant, parfois très fondé. Va en effet être plus avisé en fait qu'une signalétique visuelle. Ceci étant, c'est tout le substrat, quoi, le présupposé que ça implique sur la conception de l'espace public et de la manière en fait d'y être que je récuse en fait. C'est l'approche comportementaliste qui, moi, me semble objectable, qui n'est pas discutée en fait. C'est celle-là qui semble toujours aller de soi quand on va discuter. On va créer un design universel qui va permettre à tout le monde, quel que soit le handicap ou le non-handicap, de comprendre comment se lit cet espace public. Sauf qu'il y aurait mille autres manières de lire l'espace public et de l'utiliser. Sauf que ça, c'est pas abordé.
C'est à l'intérieur de ce continuum que vous allez placer donc une notion, le marketing sonore. Quelles sont les grandes caractéristiques de ce marketing sonore tel que vous l'entendez ?
Alors, marketing sonore, c'est pas du tout moi qui ai inventé le terme. C'est un terme qui est en concours depuis pas mal de temps, dont on peut tracer les racines justement dans l'usage de la musique d'ambiance, et qui aujourd'hui c'est beaucoup beaucoup affiné. Le marketing sonore aujourd'hui, en fait, c'est plus les personnes qui sont dans le milieu du marketing vont s'accorder sur le fait qu'on a un petit peu épuisé tous les moyens de plus-value par le visuel et que on a exploité l'image, les logos visuels ou bien vidéo, enfin les images vidéo un petit peu sous toute leur couture et le champ sonore restait assez peu investi paradoxalement. Autre que de manière très très massive, on va faire un gros jingle qui va signer la marque tout le temps. Mais en fait maintenant, il y a des agences de design sonore qui vont travailler pour exprimer l'identité d'une marque ou bien d'une institution de manière sonore. L'idée du marketing sonore, en fait, c'est de réussir à marquer son territoire d'une autre manière en fait, que par le visuel, ce qui a déjà été fait très très massivement, de produire des usages, de nouveaux usages incitatifs, c'est-à-dire on va créer un son qui va faire aimer en fait, une voiture, qui va inciter les gens à l'acte d'achat, ce fameux terme d'acte d'achat qui pourrait être déclenché par exemple dans l'industrie automobile. On va travailler très précisément le bruit d'une portière qui va se fermer. Ça, on le fait depuis un petit bout de temps, hein, c'est pas très récent, mais ça s'affine de plus en plus parce que le son d'une portière très soft va donner davantage confiance qu'un bruit de casserole qu'on va refermer, quoi. Les métros et les tramways s'intéressent beaucoup, beaucoup à ça, notamment tous les tramways en fait, qui sont de nouveau mis en place dans les différentes villes ont tous en fait, un acousticien derrière ou un compositeur qui fait le son des annonces ou fait le son des sonneries des portes ou de la validation des passes, etc. Et les villes s'y intéressent beaucoup aussi en termes de marketing territorial. Et donc en fait le champ sonore est vraiment investi, c'est comme une sorte de... On a l'impression qu'il y a une terra incognita et tout le monde se précipite là-dessus pour prendre sa part dans le gâteau parce que c'est comme si on avait des moyens de plus-value considérables ou des moyens d'influence considérables qui n'ont pas encore été exploités. Après, je crois qu'il y a encore là aussi beaucoup de discours performatifs, c'est-à-dire je crois pas du tout à un effet magique du son. En revanche, je crois beaucoup à un effet de saturation assez probable dans quelques années parce que si les voitures font des sons de portière qui sont agréables, pourquoi pas. Mais si chaque voiture, par exemple, se met à signer l'espace qu'elle traverse d'un logo sonore, comme c'est un petit peu envisagé en fait, pour les voitures électriques, puisqu'il faut inventer des sons pour les voitures électriques qui sont quasiment, pas entièrement, mais quasiment silencieuses, en fait, se pose cette question justement de l'envahissement de l'espace public sonore par des logos de tout type. Pour l'instant, il n'y a pas de régulation et il n'y a pas d'acteur en fait, qui va unifier tout ça. Il y a un petit peu des groupes de recherche qui se constituent à droite à gauche, qui essayent de fédérer les efforts de, par exemple, toute l'industrie des transports pour essayer de créer des normes. Mais pour l'instant, elles n'existent pas, c'est en cours de route.
Alors, ce qui est super intéressant avec ce que vous dites là, c'est que bon, l'ambiance sonore des villes, c'est pas un objet d'étude nouveau en soi. C'est plutôt la question des usages qui est super intéressante, puisque ça ouvre une question plutôt en termes politiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, dans ce que vous distinguez, il y a la question de la légitimité des ambiances. Qui décide que tel type d'ambiance est légitime ? Donc ça ouvre une certaine question politique, puisqu'on sait aujourd'hui que dans l'urbanisme, la concertation est un peu la pierre angulaire de la pensée urbanistique aujourd'hui, ou du moins institutionnelle, telle qu'elle aime se penser. Selon vous, si on suit un peu vos travaux, c'est justement ce qui échappe aujourd'hui à la réflexion, cette concertation sur la légitimité ou l'illégitimité de certaines des ambiances sonores qui composent l'espace urbain.
Oui, mais alors il faudrait parler de vraie concertation, parce que la concertation dans l'urbanisme aujourd'hui, c'est un petit peu de la rigolade, quoi. C'est-à-dire on décide tout dans un bureau à trois personnes, et puis après, une fois qu'on a décidé, on va se concerter avec le public pour recevoir ses propositions. Mais tout est souvent déjà verrouillé d'avance. Mais là, effectivement, en fait, plus que de concertation, je parlerai de la nécessité d'un débat public sur ces questions-là. Et d'informer, en fait, déjà le public. Moi, c'est un petit peu ça, c'est dans cette démarche-là que je vais être davantage, de dire, moi, voilà, il y a ces choses-là qui sont en train de se passer. Pour l'instant, c'est à l'état d'esquisse, il n'y a rien de dramatique. On est dans une ville, et à l'oreille, c'est la même ville qu'il y a 20 ans. Sauf que, ici ou là, il y a des petites choses qui se passent et qui veulent peut-être dire quelque chose pour un avenir proche. Et du coup, ce serait bien qu'on en discute avant que tout soit déjà décidé, déjà constitué. Et effectivement, quoi, ce serait bien qu'il y ait du débat public là-dessus, parce que si l'espace de la ville, il est structuré comme ça se fait un petit peu actuellement, entre un espace où il y aura des zones calmes, par exemple, qui seront décidées au niveau de la ville ou de l'Europe, qui les encouragent, comme des espaces où on doit avoir un certain usage extrêmement calme du lieu, par opposition à des espaces qui ne sont, sont pas des zones de fête, mais qui sont des zones où il y aura plein de publicité, etc. Effectivement, ce serait bien qu'il y ait un débat public sur quel espace public sonore on veut aujourd'hui. Déjà, en prendre conscience de cet espace public sonore, du fait qu'on le partage, que c'est une construction commune, avant qu'il soit privatisé par petits lambeaux, puisque c'est ça qui se passe, et les dispositifs technologiques qui sont construits, les plus récents, en fait, c'est dans ce sens-là qu'ils vont, c'est dans une compartimentation, en fait, de l'espace sonore, ce qui peut être très bien à certains moments, par exemple, d'avoir dans une même pièce, en fait, deux ambiances sonores différentes. En fait, tout simplement, c'est de dire qu'il y a un espace public sonore, en fait, c'est ça la base, hein, qui n'appartient à personne ou appartient à tout le monde, et que c'est un espace qui n'est pas une sorte de grande terre où chacun va pouvoir planter son drapeau au fur et à mesure, quoi. Sinon, ça risque d'être très casse-pied de se balader en ville, alors que ça peut toujours rester agréable.
On peut dire en guise de conclusion que l'essentiel de vos travaux vise aussi à conscientiser, j'ai envie de dire, vos lecteurs à l'existence même de cet espace public sonore. Oui, il existe un espace public qui est sonore, et vous introduisez finalement une réflexion sur le commun. Comment créer quelque chose de commun avec la révélation de son existence.
Oui, oui, c'est ça, c'est sûr. Parce qu'après, ça a un impact non seulement dans le quotidien des personnes, mais aussi en termes d'expression politique, naturellement, quoi. Si l'espace sonore, l'espace public sonore, ou l'espace public tout court, peut être un lieu de libre expression. Il y a une étude très intéressante dont je n'ai pas parlé, tout un travail qui a été fait par l'historienne Arlette Farge, sur le son de la rue au XVIIIe siècle. La rue au XVIIIe siècle n'était pas moins bruyante. Elle bruissait de toutes parts, de sons qui nous seraient aujourd'hui peut-être insupportables. On entendait le bruit des métiers, on entendait plein de choses. Et elle raconte une anecdote, c'est plus qu'une anecdote, mais un petit moment qui moi m'avait vraiment frappé, c'est au XVIIIe siècle, si un clochard était arrêté dans la rue par la police de manière arbitraire. Mais ils criaient, et puis ça démarrait une émeute, en fait. Il y avait des gens qui arrivaient, qui disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et on y allait. Et elle parle de cette émeute qui a existé historiquement, sur le plan uniquement sonore, en fait, de l'émergence au fur et à mesure des voix, puis ça part d'une voix individuelle et ça devient une voix collective. Aujourd'hui, un SDF se fait embarquer par la police, il se passe absolument rien, personne ne le voit, c'est le silence autour, ou bien on entend le bruit des voitures qui passent, et puis rien d'autre, quoi. Alors c'est pas pour dire que la ville d'avant était mieux, elle n'était pas sur bien des aspects, mais c'est pour justement interroger notre rapport à la ville aujourd'hui, à l'espace public aujourd'hui, et donc à l'autre, quoi, c'est sûr, aujourd'hui.
«
C'était le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. La prochaine fois, nous revenons sur une interview réalisée en compagnie de la sociologue Muriel Darmon à propos des classes préparatoires.